Bonsoir à tous, et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France, Radio Campus Paris, 93.9. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julien Andoujard pour nous parler de sa pièce Tatiana, qui joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 19 octobre. Notre équipe chroniquera, en deuxième partie d'émission, plusieurs pièces, donc Lapis Lazuli, d'Euripide Lascaridis jusqu'au 3 octobre au Théâtre de la Cité Internationale, Banquet Capital de Sylvain Crozet-Volt jusqu'au 6 octobre à la MC 93, Arcadie.
Mais ce sera visible à Malakoff.
Très bien. Arcadie, un texte d'Emmanuel Bayamak Tam, une mise en scène de Sylvain Maurice jusqu'au 30 novembre au Théâtre de Belleville. Et on terminera avec L'île au Père, qui est à l'affiche du Théâtre 13, dans le 3e arrondissement, jusqu'au 4 octobre. Petite virgule, Guy ? Non ? Pas de virgule ? Bon, on va commencer tout de suite avec l'interview. Mais avant de commencer avec l'interview, il y a un petit édito, Julien, tu m'avais dit.
Il y a un petit édito, effectivement.
On t'écoute.
Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le théâtre en est une. Il en est une sur le monde. Il nous offre, comme les autres arts, mais à sa manière, de voir à travers les yeux d'auteurices, de metteuses en scène, et parfois de nous transmettre leurs cicatrices. Depuis le 23 septembre, l'attaque et l'invasion du Liban par Israël rouvrent des plaies qui ne sont pas les miennes, mais que j'ai reçues par l'œuvre de Wajdi Mouawad. J'ai l'impression vive de revoir les enfants de mer qui, depuis l'exil, regardent un pays s'effondrer ou ces personnages perdus entre plusieurs destins de racines carrées et du verbe être. Nous n'avons, heureusement, pas besoin du théâtre pour être sensibles aux souffrances de chacune et chacun. Simplement, celui-ci nous empêche de passer à autre chose. Des hommes et des femmes, devant nous, prennent vie. Le temps de leur jeu, il nous tient par là où ça fait mal. Donc, allez voir, jusqu'à décembre, racines carrées et du verbe être. Rappelez-vous que si le théâtre peut nous faire mal, c'est pour que nous restions humains. Et pour ce qui est d'avoir mal, c'est aussi ce qui, quelque part, a donné naissance au spectacle dont on va parler aujourd'hui avec Julien Andoujard. Alors, je vais rapidement présenter ce spectacle.
Oui, on était vendredi. On était ensemble au Théâtre du Rond-Point.
On y était.
Tu racontes ?
Alors,
on t'écoute. Donc, Tatiana.
Tatiana, une pièce ou plusieurs pièces en une. Un point commun, l'histoire d'un garçon de 11 ans dont la sœur a disparu, assassiné. Il est devenu adulte et incarne toute une galerie de portraits. Il parle de lui, de sa famille, de l'envie de continuer à vivre. Dans un plus que seul en scène, Julien Andoujard, vous nous faites voyager en lieu, en époque, en émotion. Face à un tel spectacle, on a plus que jamais envie de vous demander si le spectacle répond... Les mots vont certainement être maladroits, on cherche un besoin, une envie, un combat. Pourquoi ?
Alors bonsoir.
Bonsoir Julien.
C'est une nécessité. C'est une nécessité qui est née il y a plusieurs années quand j'ai eu envie d'aider ma mère qui se bat encore pour savoir ce qui est arrivé. Parce que tout à l'heure vous disiez Tatiana assassinée. Par exemple, c'est un mot que j'utilise pas puisqu'en fait aujourd'hui elle est disparue. C'est encore une enquête qui est ouverte et effectivement forcément votre cerveau il a été chercher ça et c'est aussi ce que la pièce ne raconte pas, écrit en creux, c'est ce qu'on imagine de la suite. Nous on sait pas, on sait toujours pas, et cette pièce c'est une nécessité parce que c'est une cérémonie, on peut pas faire cérémonie pour une personne disparue. Je pense à plein de disparitions possibles, hein, des disparitions en mer, des disparitions dans des pays où il y a des phénomènes comme ça de beaucoup de gens qui disparaissent, des étudiants, des penseurs, des... Et bon, moi, c'est pas le cas, mais en tout cas, dans le cas d'une disparition, c'est très complexe de faire cérémonie. Donc là, le spectacle, c'est vraiment une cérémonie. Elle est joyeuse, cette cérémonie, pas que, mais elle est joyeuse. Donc voilà, c'est une nécessité. Pour répondre, c'est vraiment une nécessité pour moi.
Sur scène, on voit plusieurs personnages. Il y en a un en particulier que j'ai adoré, c'est Valentina. Et Valentina nous accueille dans le théâtre avec un plateau et des petits bouts de tortilla. Pourquoi vous avez fait ces choix d'accueil et quelle importance accordez-vous à cette interaction initiale avec le public ?
Alors, Valentina, je vais la faire un peu, comme ça on l'a un peu, on a l'idée de Valentina, qu'elle est toujours trop contente d'être là, Valentina, et de te donner un morceau de tortilla, hein. Tu la vois un
et
peu,
nous,
non?
On est content.
Aïe,
de
on est trop
Valentina.
Content quand elle arrive.
Oui, oui, trop content.
Alors Valentina, c'est mon amie imaginaire. C'est vraiment, c'est une création, on va dire, c'est une drague, c'est une espagnole, c'est une héroïne d'Almodovar, c'est toutes les héroïnes d'Almodovar, c'est la joie, c'est celle qui me permet d'être debout, de fantasmer, d'être... de fantasmer, je parle vraiment de, d'un point de vue artistique, c'est celle qui me permet en fait de faire lien avec les spectatrices, les inviter à casa. Quand tu rentres et qu'il y a Valentina qui t'accueille avec la tortilla, tu viens dans la maison. Elle t'a dit, c'est comme dans ma famille en fait. C'est vraiment, tu rentres, t'as faim, tu manges, je sais pas comment tu t'appelles, mais déjà tu prends un morceau de tortilla, tu vas t'asseoir là-bas, il y a un machin qui arrive et tout ça. Et c'était ça, à Noël, il y avait des gens que parfois je connaissais pas, je savais la veille qu'ils venaient, voilà, des amis d'amis d'amis. Donc c'est ça, c'est l'idée que peu importe qui rentre, il va prendre un bout de tortilla et Valentina va s'occuper de tout. Voilà, et c'est elle qui nous permet en fait de rentrer dans la chambre de l'enfant, dans la pensée de l'enfant, et qui se permet aussi de dire ce que moi, j'aurais peut-être pas dit en étant Julien, en étant moi-même sur scène.
C'est un peu ça qui nous accompagne pendant toute la pièce.
C'est ça, c'est la maîtresse de cérémonie, c'est la meneuse de revue. Elle est folle, elle est complètement tarée et elle est capable de tout. Et en fait, dès que si j'ai un accident sur scène, on va dire, et qu'il faut que j'aille faire quelque chose, c'est... franchement, à 99% sûr que ça va être Valentina qui va dire « Attends, hostia, je m'occupe de tout !» Et elle est capable d'improviser sur n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment une drag queen. C'est un peu comme ma drag queen du spectacle, quoi. Voilà.
C'est ça. Et c'est votre joker, alors ?
C'est mon joker, ouais, c'est ça, exactement.
Alors, vous en parliez là à l'instant. C'est vrai que Valentina, déjà dès le début, interagit avec le public. Et l'ensemble de vos... je ne sais pas si c'est vos personnages, si c'est vos personnalités. Je ne sais pas comment vous justement, vous vivez cette galerie. Mm-hmm. Déjà,
alors, oui, c'est des personnages issus de personnes. Il y a la galerie de personnages que je propose sont tous et toutes issus de gens que j'ai connus ou que je connais encore. Elsa, ma meilleure amie du Sud, avec qui je suis encore en contact, qui est venue voir la pièce, qui était hyper émue quand la première fois que je lui ai dit « t'es dans la pièce ». Et j'adore parce qu'elle m'a dit « mais j'ai trop pas l'impression d'avoir vécu ça aussi proche de toi, Ju ». Et j'étais là « oui, alors, en fait, on était ensemble en 5e, ma sœur a disparu quand j'étais en 6e ». Donc, en fait, tu as vécu toute ma vie de frère de disparu. Et donc, voilà, c'est drôle comme les gens ne pensaient pas être à ce point-là dans mon entourage. Il y a l'avocat de la famille qui, aujourd'hui, est décédé, Maître Étienne Nicolo, qui était au courant du projet, qui m'a donné vraiment son feu vert. Je lui ai envoyé le dossier. On a discuté sur le dossier. Il était déjà hyper touché que je l'intègre à ce spectacle. Voilà, je parle d'un gendarme qui n'a pas de nom, mais qui représente vraiment les gendarmes de l'époque en 95. Voilà, c'est vraiment, j'ai recréé des personnages. Bon, il y a Eli Kaku qui revient, spécialement pour le spectacle. Il y a un retour d'Eli Kaku. Et voilà, et c'est des gens qui révèlent l'entourage du petit garçon de 11 ans que j'étais. Et voilà, c'est moi qui incarne tout le monde, mais en étant le plus possible dans l'amour de ces personnages pour que vous, en tant que spectatrice, vous puissiez les aimer au moins autant que moi. Voilà.
Et vos personnages et vous interagissez avec le public. Mm-hmm. Ça, c'est pas si rare. Interagissent aussi avec la régie, ça l'est plus. Mm-hmm. Est-ce que vraiment il y avait une évidence à comme ça... pour parler technique, de casser le quatrième mur ?
Oui, parce que c'est... Bon, on parle de ma sœur disparue quand même en 95. Alors, ça fait longtemps et en même temps, pour moi, c'était comme si c'était hier. Hein. Je pense que l'enfant de 11 ans, on l'a tous en nous, pas très loin, si on vient juste tirer la bonne ficelle. Donc voilà, moi, ma sœur, j'ai l'impression qu'elle a disparu hier, sauf que, bon, il s'est passé 29 ans. Et j'accueille quand même des gens, c'est pour ça aussi qu'il y a Valentina, j'accueille des gens dans une ultra-intimité. C'est très dur ce que je vais devoir raconter, et c'est dur aussi ce que je ne vais pas dire, comme l'assassinat, par exemple. C'est encore plus dur, je crois, le creux. Ce que je laisse en creux, et les mots que je laisse disparus, eux aussi, que je ne mets pas. Donc à partir de là, c'est vrai que moi j'ai eu envie de mettre le public entre la régie et moi. donc pris dans un en sandwich, on va dire, voilà. C'est mon frère qui est en régie aussi, mon petit frère. Il y a aussi Juliette qui est là. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je sois en interaction et que je dise aux gens, c'est moi qui parle, et c'est mon histoire, mais rassurez-vous, je vous accompagne jusqu'au bout.
Faire Dima Sumac. Ah, nous sommes toujours avec Julien Andouja pour nous parler de sa pièce Tatiana, actuellement au Théâtre du Rond-Point. Julien, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi cette musique ?
J'ai choisi ce morceau, il ne figure pas du tout dans la pièce, mais ça a été une inspiration justement pour Valentina. En fait, quand je travaille les personnages, il faut les travailler en mille feuilles. Il faut vraiment venir leur donner du énormément de goût, de l'histoire, et surtout quand c'est un personnage imaginaire. Valentina, il fallait lui donner un rythme. Eh ben, cette chanson, c'est le rythme de Valentina. C'est ses voix qui changent, c'est capable d'être en bas, capable d'être en haut, capable d'étonner, d'être dans un melting pot, on va dire, musical qui vient en friction. En fait, il y a plein d'influences à l'intérieur. Et voilà, et donc Ima Sumac et cette chanson en particulier, ces rythmes comme ça cassés, cette voix qui change, ça m'a beaucoup inspiré pour trouver quelque chose, une des feuilles du millefeuille de Valentina, et je trouvais ça intéressant d'écouter une musique qui n'est pas dans le spectacle, parce que j'ai ma playlist d'inspiration qui n'est pas que composée de musique du spectacle en fait, voilà.
Effectivement, quand on regarde votre pièce, on voit plein d'influences. Donc, vous avez parlé tout à l'heure donc, de toutes les femmes des films d'Almodovar. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à des pièces de Stephen Cohen. Et cet aspect, oui, déjà, ce qu'on voit de la scénographie initiale, ça répond, j'avais l'impression que ça reprenait une scénographie de Stephen Cohen. Comment ces références sont traduites dans votre création ?
C'est pareil, c'est plein de couches. En fait, quand j'ai commencé la création, j'ai sélectionné énormément d'images pour que, avec toute l'équipe, on puisse regarder les mêmes images et avoir les mêmes références. Alors, parfois, il y avait des choses, il y avait Jim Carrey dans The Mask, il y avait une image d'un rideau ouvert, voilà, il y avait quoi, des héroïnes d'Almodovar, il y avait une image de ma sœur, une image de mes parents dans une émission en 97. Voilà, et en fait, on crée un mur d'inspiration, des mood boards un peu, voilà, mur d'inspiration pour la création. Et à partir de là, on va chercher. En fait, c'est comme si cette matière, elle travaille à la fois en surface et en profondeur. À la fois, on va aller chercher vraiment des références directes et les montrer. Je veux dire, la référence d'Almodovar, quand on l'a et quand on me voit, en général, les gens, quand ils arrivent et qu'ils prennent un morceau de tortilla, ils se disent « Ok, je rentre dans un film d'Almodovar ». Si on ne connaît pas, c'est ok, on a une autre chose, un autre goût. Voilà. Et pour la scénographie, on a travaillé sur le Razzle Dazzle, une méthode pour faire disparaître les bateaux pendant la guerre. En fait, il est peigné avec des rayures et des couleurs très très flashy, comme ça au large. Il y avait un effet d'optique qui se créait et ça faisait disparaître le bateau. Et du coup, on a travaillé sur un Razzle Dazzle qui reprend le visage de ma grande sœur, qui est ultra agrandi, ultra zoomé et qui est en Razzle Dazzle. Et c'est comme si on avait fait disparaître Tatiana dans la scénographie, qu'elle s'était incrustée tellement dans la scénographie qu'elle était là en permanence, mais on la voit pas.
Et tout à l'heure, Julien, pendant la pause, on parlait d'une autre influence.
Oui, parce qu'il y a également d'autres influences qui sont... et tu disais toi-même qu'effectivement, tu ne les avais pas forcément, ce qui est logique, puisque tu n'as pas vécu les années 90 en France. Mm-hmm. Et effectivement, quoique c'est quand même toi qui, pendant le spectacle, m'as fait remarquer que c'était les Spice Girls qui étaient représentés sur le rideau. Mm-hmm. Et effectivement, tu en parlais... Pendant la musique, la référence à Eli Kaku, mais on a aussi toute une culture télévisuelle des années 90. Mmh. On sentait, alors, vous citez un moment Julien Courbet, moi j'avais eu l'impression d'assister à Perdu de vue.
Ouais, bien sûr.
C'est peut-être Perdu de vue, il y avait peut-être Perdu de vue aussi.
Il y a du Perdu de vue, il y a du Julien Courbet, il y a Eli Kaku, il y a les Spice Girls, on a Janet Jackson, on a une chorégraphie sur Janet quand même. Voilà, oui. Voilà, donc il y a énormément de références. Il y a aussi la doublure de Patrick Fury qui est là, la doublure qui est au Zénith et qui fait Notre-Dame de Paris mais qui n'est jamais choisie. Voilà, qui chante un peu de Notre-Dame de Paris. C'est hyper important pour moi de replacer ça dans les années 90, peu importe si on les a vécues ou pas. Ça donne une couleur, ça donne une couleur musicale et ça donne une encore une fois, ça donne une des couches. Et c'est vrai que Eli Kaku, même s'il apparaît très très vite, c'est pour moi vraiment, en plus c'est quelqu'un qui est décédé aujourd'hui et je l'ai vu en spectacle, j'ai eu la chance de le voir vraiment en spectacle, j'étais ultra ultra fan. Et voilà, et c'est important pour moi de donner toutes ces références pour situer l'action dans le temps. On la situe dans l'espace en parlant de Perpignan, en parlant de la gare de Perpignan, en parlant des Pyrénées-Orientales, mais la situer dans le temps, c'est encore autre chose. Et du coup, je trouve que la musique, les artistes du moment, ça donne quand même une couleur du temps.
Ah oui, et moi, la question que ça m'amenait, c'était est-ce que quelque part, c'était aussi une façon pour Julien Andujar adulte de réamener le Julien Andujar de 11 ans, si, pas seulement dans la pièce, mais aussi au moment où la pièce se conçoit.
Oui, c'est ça. Il y a dans ces couches-là, il y a le petit enfant de 11 ans et celui de 40 aujourd'hui qui cohabitent. Évidemment, j'ai fait une sélection. Enfin, bon, par exemple, il y a un morceau des Spice Girls qui passe dans la pièce. Bon, j'allais pas mettre Wannabe parce que Wannabe, quand même, personnellement, j'en peux plus de l'entendre. Il est génial ce morceau, mais voilà. Mais il y a d'autres chansons de l'album qui me procurent un effet dingue. Et c'est justement quand on connaît les Spice Girls, c'est quand on connaît l'album qu'on se dit ah ouais, non, il a pas choisi le tube, il a choisi la quatrième. Ou là, il y a un truc un peu. Voilà. Il y a une sélection comme ça à faire, mais c'est vrai que oui, c'est le Julien d'aujourd'hui qui accepte aussi de mélanger tout ça, toutes ces références, et d'accepter ces références. Eli Kaku, dans le théâtre contemporain et dans la danse contemporaine, a priori, je dirais pas qu'il est pas le bienvenu, mais on le fait pas trop apparaître. Et moi, c'est une référence référence que j'ai, qui me fait rire, qui me fait du bien, qui me met en joie, et ouais, j'avais envie qu'il soit dans le spectacle.
Et il est là, il prend vraiment une place, et cette intrusion-là, elle sonne, je trouve, particulièrement juste. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faut évidemment avoir connu cette époque en France pour se rendre compte de comment, effectivement, ça faisait partie de cette culture commune. Mmh. Et ça, effectivement, on se retrouve très fortement plongé à ce moment-là là-dedans, puisqu'on imagine bien ces milliers d'enfants d'une dizaine d'années qui l'ont vu tout le temps à la télé.
Ouais, bien sûr.
Et qu'il l'imite. Parce qu'en plus, il donne particulièrement envie d'être imité.
Mais bien sûr. Alors déjà, on l'aime. Ikaku, on l'aime. Même s'il fait des personnages ignobles, on l'aime. C'est aussi un humoriste qui allait chercher la beauté et la laideur confondues. Il allait beaucoup dans la laideur, dans son visage, il déformait beaucoup son visage. Il y avait vraiment une certaine beauté dans ses personnages, dans la poésie qu'ils amenaient, dans l'écriture aussi de ses personnages, même si c'était un peu fou. Et oui, effectivement, l'aspect de l'imitation. Lui-même devait imiter des gens, moi là je l'imite et j'imite aussi plein de gens sur scène. Et l'imitation, c'est très fort pour moi. Quand on est plus petit, on imite. On adore imiter, on imite notre grande sœur, notre grand frère, notre voisin, la caissière. On imite, quoi, on adore imiter. Et moi, c'est en imitant que soudain, à force d'imiter, j'ai l'impression que les entités, ces gens-là, là, à ce moment-là, quand je fais Ikaku, j'ai l'impression qu'Ikaku rentre dans mon corps, s'empare de moi pour 2 secondes pendant le spectacle. Et j'adore. Si j'en suis pas convaincu, je pense que vous pouvez pas l'être. Forcément, c'est ma force de conviction, c'est de me dire, par l'imitation extrême, j'en arrive à avoir les cellules qui changent et je deviens cette personne. Je deviens Valentina, je deviens Ikaku, je deviens Elsa, je deviens l'avocat, je deviens ma mère. Il faut que je devienne ces gens. Voilà.
Et dans le dossier des presse, vous parlez des réparer l'histoire. Qu'est-ce qui signifie pour vous cette notion dans les cadres de votre travail sur Tatiana ?
Ma grande sœur, c'est devenu un fait divers. On a parlé des disparus de la gare de Perpignan. Donc, il y a eu 4 disparus. Ma grande sœur a été la première et les 3 autres disparus ont été retrouvés. Leurs corps ont été retrouvés. Les coupables ont été retrouvés. Voilà, elle a été associée aux disparus de la gare et c'est devenu une sorte de symbole de fait divers. Et c'est très difficile avec les années déjà de se rendre compte que ma sœur est devenue un fait divers. Et alors là, bon, c'est compliqué de rattraper un intime et des souvenirs personnels. Ma mère, des fois, me disait, mais j'ai gardé certaines photos que j'ai jamais données aux journalistes parce que je veux qu'elles restent les miennes. En fait, je veux qu'elles restent intimes et personnelles. Et pour moi, c'est important. Je fais une petite bifurcation, oui. Mais en tout cas, c'est important que aujourd'hui, le prénom de ma sœur trouve un autre espace dans le public. Voilà. Les journalistes, les journaux, le fait divers, ça rend ce prénom fait divers.
Oui.
J'essaye un maximum de redonner à ce prénom quelque chose et sans ça que je pense réparer l'histoire. Les gens viennent voir Tatiana, ils voient Tatiana. Voilà.
Thank you.
Alors, on a écouté Jiban Senko de Jali Nyama Suso. Nous sommes toujours sur Radio Campus Paris avec Julien Andoujar pour nous parler de sa pièce Tatiana qui joue actuellement au Théâtre du Rond-Point. Alors, moi j'ai une question, Julien. Je voudrais savoir, donc, vous évoquez le mystère et la magie qui entourent les prénoms de votre grande sœur Tatiana. Pensez-vous que l'art, à travers sa capacité de suggérer l'indicible, peut révéler des vérités plus profondes, et en particulier sur des thèmes comme les deuils et l'absence? Bon, évidemment, oui, je posais ces questions, mais je...
Oui, mais c'est, en fait, c'est comment, surtout. C'est pas est-ce que, pour moi, c'est comment. C'est comment on fait. Effectivement, moi, en tout cas, là, dans cette pièce, toute l'idée, ça a été de travailler l'entourage de Tatiana et de créer comme ça un cercle qui, à force de créer ce sillon, on commence à voir apparaître l'absente Tatiana. Elle est là dès le début, elle est là très très fortement à la fin, parfois pendant la pièce on l'oublie, et c'est tout ce travail en fait de nuances avec l'ultra présence de Tatiana, l'ultra présence dans les médias, l'ultra présence dans les pensées parce qu'elle a disparu, qu'elle devient ultra présente dans la famille. Tout à coup on ne fait que parler de Tatiana. Où est Tatiana? Comment on fait pour Tatiana? On vit pour Tatiana qui n'est plus là. Et puis le temps passe, la pièce passe, le temps passe et on vit. On va à l'école, on mange, on s'endort, on a des délires, on voit Eli Kaku, on danse. Voilà, je fais ma vie d'artiste. On oublie un petit peu Tatiana, on est obligé au moins quelques minutes dans la journée. Je vous dirais pas, je vous mentirais si je vous disais qu'il y a une seule journée dans ma vie où j'ai pas pensé à Tatiana. Ce serait faux, j'y pense tous les jours. Mais en attendant, il y a quand même des moments où je l'oublie. Et c'est un droit aussi à l'oubli. Et c'est là où je trouve beau, dans la fiction et dans l'art, venir raconter tout ce spectre-là. L'ultra-présence de ma sœur et en même temps, le droit à l'oubli. Et la pièce évoque ça. Et il y a des gens qui m'ont dit un peu gêné après. Il y a des moments où je rigolais tellement que j'en oubliais Tatiana. Je disais, mais c'est magnifique, c'est génial de venir voir une pièce qui s'appelle Tatiana et vous en oubliez Tatiana parce que vous me voyez faire une chorégraphie sur Janet Jackson et faire des retours aux danseuses imaginaires, à des danseuses imaginaires. Je veux dire, à un moment donné, le public regarde un plateau vide avec des danseuses imaginaires. Voilà, l'art, il est là pour se permettre des choses comme ça, se permettre la magie. On parlait tout à l'heure de réparer le monde et même de le renverser, le monde, de le raconter autrement. On vient voir Tatiana. Non, dans la vie, on ne peut pas la voir. Mais là, on vient au théâtre voir Tatiana. Et vous deux, vous avez vu Tatiana. Vous êtes venus voir Tatiana. Et ça, pour moi, c'est une formule magique. C'est grâce à la fiction, grâce au théâtre et grâce à ces espaces d'art qu'on peut créer de presque, j'ai envie de dire, de l'irrationnel, en fait. Quelque chose qui est au-delà de nous, au-dessus de nous.
Ça m'amène à une question que j'avais pas forcément prévue, mais finalement, vous avez vécu ce moment où Tatiana était plus à vous, était plus à la famille, puisqu'elle était devenue ce fait divers. Oui. Enfin, ce fait, en tout cas, j'ai utilisé le mot fait divers, qu'il y a... mais en tout cas, un fait de société ou en tout cas un fait public. Quelque part, l'histoire, enfin le temps passant, Tatiana vous est un peu revenue parce qu'elle a quitté le devant de la scène médiatique. Est-ce que quelque part vous vous êtes posé la question d'en reparler et de finalement la redonner à l'espace public?
Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que si j'avais fait cette pardon, excusez-moi. Si j'avais fait cette cérémonie à Lupia, là où on habitait dans la salle des fêtes, ça aurait un autre impact. L'impact, là, il a été d'aller justement à des endroits. Je veux dire, la première, elle était à Reims. Après, j'ai été jouer à Avant, à Marseille. Enfin, je veux dire, voilà. Et finalement, on a joué à Perpignan. Mais en tout cas, ça a été donné à plein de lieux qui n'ont rien à voir avec le territoire, avec les gens qui ont vécu ça. Justement, il y a un décalage de ça. Et je me suis dit, c'est intéressant d'aller apporter cette pièce justement au-delà du cercle, au-delà des Pyrénées-Orientales, à des gens qui connaissent ou pas le fait divers, et effectivement de récupérer le prénom de ma sœur et d'en donner une autre couleur, moi, effectivement, du côté du public. Voilà. C'est encore un fait divers, Mais ce qui est beau, c'est qu'avec la pièce, maintenant, ça se mélange. Il y a même des fois où ma mère est invitée dans une émission et à la fin, il parle un peu de la pièce. Il y a des articles qui parlent de la pièce et qui finissent par parler du cold case. En fait, comme dans la pièce, je vous parle de la réalité et la fiction sont mélangées, sont des amis. Vous voyez, quand vous avez pris la tortilla qui vous donne un peu des hallucinations.
Moi, je n'ai pas pris ça.
Ah, donc vous n'avez pas eu l'allu. Vous n'avez pas eu d'hallucination. Mais en tout cas, voilà, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que... Aujourd'hui, ça se mélange. Alors, effectivement, il y a des émissions qui seront toujours des émissions pour les faits divers et des émissions qui seront plutôt des émissions pour la promotion du spectacle ou parler de l'art. Mais en tout cas, c'est cet endroit de flou, même où ça se dilue un petit peu, que je trouve intéressant en tant que frère et en tant qu'artiste. Parce que moi, je suis les deux personnes en même temps, dans le même corps. Donc le frère il voit le fait divers et l'artiste il voit la pièce. Ben je me dis c'est hyper beau aujourd'hui que ça se mélange, que ça se confonde. Et pour aller plus loin, dès le départ on m'a dit mais t'as pas peur qu'il y ait des gens qui viennent voir le fait divers sur scène? Et je me disais bah non, venez, vous allez être accueillis par Valentina qui va vous donner de la tortilla et tu vas trop rigoler, tu vas te dire hostia, je me suis trompé des salles. Et en fait c'est ça qui m'intéresse, c'est de venir renverser, troubler et qu'on voit pas ce qu'on attendait de la pièce.
Et moi, je voudrais savoir exactement à propos de ça. Donc, vous arrivez à mélanger de façon incroyable ces sujets qui sont extrêmement douloureux avec de l'humour. Mm-hmm. Vous nous faites rigoler pendant toute la pièce,
tant mieux.
Presque. Et comment vous avez fait à trouver cet équilibre dans la création de la pièce ?
Ça s'est écrit... En fait, on a écrit sur plein de petits papiers. Alors, j'ai fait beaucoup de spectacles du jour. Donc, dès le départ, on a travaillé vraiment le spectacle comme... dès le deuxième jour de résidence avec tout le monde, j'ai dit, on va faire un spectacle de 2 heures avec ce qu'on a. Voilà, 2 projecteurs, 2 musiques, un pauvre costume tout pourri et voilà, on y va. Et en fait, on a sculpté la pièce. Donc déjà, elle s'est sculptée de l'intérieur donc du plateau et de l'intérieur du corps, de mon corps. Donc déjà, c'est une certaine façon d'écrire. Et en plus de ça, on a écrit tous ces personnages, toutes les tasks qu'ils avaient à faire, donc toutes les tâches, tout ce qu'ils avaient à apporter dans la pièce. Et du coup, on a écrit les couleurs. Qu'est-ce qu'ils amènent ? Elsa, elle apporte l'adolescence, une certaine nostalgie, en même temps quelque chose de très cruel. L'école, les phrases qu'on dit à l'école, la prof d'anglais qui dit des choses horribles. Voilà. Y a Maître Étienne Nicolo qui vient nous ramener la justice, en fait. Qui était Tatiana, comment elle est arrivée au monde, qui vient faire un plaidoyer, en fait, sur Tatiana et la famille Andujar. On a ma maman qui parle de l'intérieur d'une maman qui a perdu sa fille. Voilà, on a la chance d'avoir Céline Dion qui vient chanter sur scène. En tout cas, non, je reprends un morceau de Céline Dion. Y a plein de choses, il y a cet homme grenouille et en fait tout ça on les a travaillés comme un peu des curseurs, des fadeurs, on va dire on a voilà, est-ce qu'on met 10% d'humour et 90% de gravité, est-ce que là on vient hop, on monte l'humour à 100% parce que là on en a besoin. Et en fait c'est vraiment un travail qui s'écrit aussi chaque soir parce que la pièce est 50% écrite et 50% à écrire. To be continued, voilà, parce que la pièce est irrésolue comme l'affaire de ma sœur est irrésolue et c'est vraiment sur le moment qu'il faut aller travailler comme en cuisine quoi. Voilà, on a tout le temps les mêmes épices, on a tout le temps les mêmes ingrédients, mais comment aujourd'hui, ah tiens je vais essayer ça là, je vais, ah non là j'étais un peu trop loin, c'est trop épicé, alors je vais ramener de ça. Voilà, des soirs je suis plus cruel que d'autres. Parfois, Elsa est beaucoup plus cruelle. Parfois, la journaliste est horrible. C'est Kika d'Almodovar. Elle est tranchante. Parfois, elle est beaucoup plus douce. Et en fait, bah, derrière, je me dis, ah, elle a été douce. Bah, ah, là, je vais les piquer là. Et bah, là, je vais reprendre là. C'est, voilà,
mais
c'est
la
tout
prof d'anglais.
Jeu. La prof d'anglais, elle s'en prend toujours ouais. Plein la tête. Ouais.
Incroyable. Bon, bah, je pense que c'est arrivé le moment de vous quitter. Ou tu as une dernière question, Julien, je ne sais pas. Mais
non,
là...
non, le moment est venu. Mais allez voir le spectacle.
Merci beaucoup, Julien, d'être été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour cette pièce. Merci pour Tatiana.
Bah, merci à vous.
Et allez voir cette pièce. Ouais. Allez rencontrer Valentina. Ouais, manger la tortilla avec Valentina.
On a de la tortilla à fond. Venez, il faut la finir.
Oui, et là, c'est jusqu'au 19 octobre. C'est bien
jusqu'au
ça
19,
au Théâtre
de
Rond-Point. Ouais. Merci, Julien Andujar. Et allez-y, voir Tatiana.
سألوني الناس عنك سألوني الكل ناجع وعلموني سألوني الناس عنك سألوني الكل راجع وعلموني غمضت عيوني خوفي لن مخبى في عيوني وهب الهوى وبكان الهوى لأول مرة ما منكن سوا
سألوني الناس عنك
يا حبيبي
كتبوا المكاتب وأخذ الهوى
Alors, et maintenant, c'est le moment des chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, ce soir, on va vous parler des lapis lazuli, vus par Alice et Guigui au Théâtre de la Cité Internationale. C'est une pièce d'Euripide, Lascaradis, a été jouée jusqu'au 3 octobre. Après, on parlera aussi des Banquets Capital, des Sylvain Crozet-Volt, vu à la MC 93, que vous pourrez revoir après, je ne sais plus où, à Malakoff, c'est ça ?
À Malakoff.
Très bien. Bon, elle était quand même jouée jusqu'au 6 octobre à la MC 93 de Bobigny. On parlera aussi d'Arcadie de Sylvain Maurice, jouée au Théâtre des Belleville jusqu'au 30 novembre. Et on parlera aussi de L'île au Père, d'Elisa Machover, comme tu dis, Thomas.
Machover,
qui a été joué au Théâtre 13 jusqu'au 4 octobre. On commence avec la chronique d'Alice sur Lapislazuli, d'Euripide Lascaradis. Ah, c'est Guigui qui commence. Vas-y Guigui, on t'écoute.
Oui, alors bon, j'ai été avec Alice. Hein. Alice, elle m'emmène voir des spectacles. Alors là, c'était Lapislazuli. Merci Alice. Donc c'est de Euripides Lascaridis. Alors quand même, j'ai pas l'habitude de lire la petite note. Mais alors, quand j'ai vu que monsieur est chorégraphe, il est l'un des maîtres du théâtre dansé de l'absurde. Le théâtre dansé de l'absurde. Alors, je savais vraiment pas ce que j'allais voir. Et en fait, il s'agit d'un spectacle sur les loups-garous. Voilà, donc on s'y attend pas vraiment. Hein. Donc c'était... Ah oui, parce que je vous dis quand même cancer. Hein. C'est terminé. Donc c'était du 1 au 3 octobre au Théâtre de la Cité Internationale. Et donc c'est un spectacle sur le loup-garou. Donc c'est un loup-garou, mais c'est un gentil loup-garou. D'accord ? Et ce gentil loup-garou, eh ben, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas manger la princesse, pour ne pas attaquer les gens, mais en fait, ça ressurgit tout le temps. Il a ses griffes qui sortent, il pète des énormes câbles et il devient complètement fou. Et alors, quand on dit fou, c'est vraiment complètement fou. Et
démonstration.
Là vraiment, on peut féliciter Euripides parce que le spectacle est complètement dingue. Il y a des explosions, des cris, parce qu'alors ils ont leur petit micro à côté de la bouche et ils se mettent à hurler. On a des hurlements de jeunes femmes, des hurlements de loups-garous. Moi, je me suis beaucoup amusé et je sais qu'Alice a rigolé à côté de moi parce qu'elle va dire des trucs méchants, je crois,
c'est
sur cette
fou.
Pièce, alors qu'elle rigolait comme une petite malade à côté de moi. La salle était pleine et les gens ont adoré.
Parce que c'est un loup-garou. Alice, c'est un loup-garou. On le déclare sur scène.
Alice, c'est un loup-garou, oui. Il y a un problème. Mais bon, après, non, je me suis barré tout de suite après le spectacle parce que je voulais pas voir ce qui se passait la nuit.
C'était la pleine lune.
Mais en tous les cas, oui. Alors bon, après, il y a toute l'explication là de dire on voit l'ambivalence des gens. On peut pas se décrocher de ce qu'on est vraiment et tout ça. Bon, moi, j'avoue que toutes ces histoires-là, ça me gonfle. Parce que finalement, c'est un spectacle où on s'amuse comme on va voir le Rocky Horror Picture Show, quoi. Hein, c'est des trucs un peu délirants, baroques. Et voilà, et puis je pense... Alors, il faut le dire, le texte est fabuleux, hein, parce que c'est signé Euripides Lascaridis, hein, Et donc, comme tout le monde sait, bah, il n'y a pas un seul mot dans le texte. Hein. Donc, il y a des « yes »,« how are you, oh, good », c'est tout. Mais voilà, et des « ouh », voilà, exactement. Mais sinon, tout est interprété, on comprend tout très bien, hein, mais c'est, tout est comme ça, sans texte. Et écoutez, moi, j'étais vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Comme disent les Anglais, j'étais reluctante. Hein. Mais en fait, une fois que j'étais là-bas, bah, y avait, enfin, c'est vraiment assez délirant. Et donc je vous le conseille, mais alors le problème c'est que je sais absolument pas où vous pourriez aller le voir.
Faut voir avec la pleine lune.
C'est vrai que c'est compliqué parce que les prochaines dates sont à Turin, à Tbilissi, plus proche qui est quand même Charleroi et Liège.
Alors Alice.
Bon alors je suis désolée de t'avoir amené dans un spectacle de loup-garou. Moi, je me suis demandé quelle était la nature du loup-garou. Parce qu'en fait, en regardant de près, c'est un personnage malfaisant des légendes populaires. Homme-loup qui passait pour errer la nuit dans les campagnes. Et j'ai l'impression d'avoir vu une satire de spectacle sur les loups-garous. Je me suis demandé où ce loup-garou veut-il en venir. Il m'a complètement perdu dans son errance. C'est vrai que j'ai rigolé, je l'avoue. Mais en fait, j'étais plus gênée parce que... Voilà, je me suis complètement perdue. Alors, pourquoi souhaite-t-il se dénaturer, ce loup-garou ? Pourquoi veut-il devenir fréquentable, honorable, présentable ? Au final, en fait, ce qu'on sait bien, c'est que le violeur, le criminel, se trouve dans l'humain, le banal. Il n'y a qu'à voir et entendre l'affaire des viols de Mazan. Donc voilà, moi, je me suis demandé vraiment pourquoi tout ça pour ça ? Un tel spectacle est-il souhaitable ? Je me suis demandé si la scène de poursuite d'une vierge dans la forêt, ce qui m'a paru interminable et digne d'un spectacle de fin d'année de scolaire, d'habitude je dis jamais des horreurs pareilles, mais voilà, je me suis demandé si c'était
mais
voulu.
Toi, pas vu mes spectacles scolaires. Pourquoi non, on parle mal des spectacles scolaires?
Pourtant, j'adore les spectacles scolaires et j'en ai monté des tonnes. Et
après, c'est quand même assez...
Mais là, c'était dur. Une satire de spectacle scolaire.
Ah, elle fera une chronique prochainement sur les spectacles scolaires.
D'accord.
Non, parce que là, je veux dire, un spectacle scolaire peut être complètement merveilleux et incroyable, mais là...
Non, mais désolé, Alice, quand même.
C'était une satire. Une satire. J'ai saturé ça des satires.
Qu'est-ce que tu dis, Guigui ?
Bon, je veux dire, des spectacles scolaires avec... Alors, je vois ce que tu veux dire, mais des spectacles scolaires et les lieux et les viols de Mazan, non, c'est pas possible. On peut pas dire ça.
Enfin, je crois qu'il faut passer à une autre chronique.
Il peut devenir gentil. Il a envie d'amour.
On dérape.
Oui.
Reprenons l'antenne.
La suite.
Oui, on passe à la suite. Mais Alice, termine.
On en T'as finit terminé avec ce loup-garou qui nous amenait nulle part, je suis désolée.
Alors, donc,
oui, Orient.
Bon, assez mitigé sur cette pièce, Lapis Lazuli. On passe maintenant à Banquet Capital. Et c'est à toi, Thomas, je donne la parole.
Merci. Banquet Capital, c'est un retour de manif en 1848, au lendemain de la proclamation de la Deuxième République, avec toutes les stars ici présentes de cette révolution. C'est le prétexte pour Creusevaux de faire dialoguer des noms qui ne sont plus pour nous le plus souvent que des boulevards. Auguste Blanqui, Louis Blanc, Raspail, Barbès. Au risque d'en faire du théâtre de boulevard, justement, à coup d'écriture au plateau mal raboté et de direction d'acteurs presque inexistante. Elle semblait alléchante, hein, pédagogique pourtant cette idée, celle de donner au capital de Marx la forme dialoguée que l'on trouve dans le banquet de Platon. Mais Creusevaux semble oublier que les écrits de Platon, même s'ils en ont la forme, ne sont pas du théâtre, ne sont pas voués à être joués. Et l'un des convives chez Platon, il pousse les autres à s'émerveiller, à s'étonner, à chercher une vérité qui permettrait de penser puis d'agir sur le monde. Ici, tout est vociféré à 100 à l'heure, pas de place pour l'émerveillement, pas de place pour l'action non plus. Le texte inspiré du Capital, certes, est d'emblée désactivé par l'histoire. Aujourd'hui, on le sait, ce qu'il énonce ne permettra pas de changer le monde. L'équipe au plateau ne semble plus y croire en tout cas. Alors, tout devient propice aux bons mots, ils sont rares, de ceux d'acteurs qui sont dans l'entre-soi, loin du travail prolétarien. Ils s'amusent, certes, mais sans nous, ils démontrent leur grande dextérité à articuler des pavés appris par cœur ou débités à la sulfateuse comme si tout c'était sous coke. C'est à ça qu'en est réduite la révolution ici, une révolution imbitable, imbuvable, malgré la profusion de vin sur la table. Comme s'il n'y avait plus d'espoir après tout, posture punk, no future, ici. Si on est contre-culture, enfin contre-culture, oui, mais à la MC 93, hein, tout de même. Hein. Il n'y a pas de générosité dans cette mise en scène qui va tambour battant et ne se rend pas compte que la pensée, la véritable pensée, a besoin de silence. D'ailleurs, de mise en scène, il n'y en a pas. Juste deux tables mises bout à bout et une lumière, toujours la même, qui éclaire en plein feu les acteurs comme les spectateurs. Ceux-ci, en bifrontal, peuvent avoir l'impression d'être conviés à ce banquet, mais il n'en est rien. La joie de recevoir n'est pas là. On ne fait rien pour nous apprendre quelque chose puisqu'on n'y croit plus. On assiste à un cours de philo de mauvaise qualité, une caricature avec les élèves dissipés qui refusent de s'asseoir, le prof qui perd ses moyens, ses potaches, jusqu'au moment du téléphone, objet transitionnel de notre époque, anachronisme ici, à qui on fait miroiter l'Holocauste, qui risque d'être brisé sous les coups d'un marteau sans faucille, mais qui, bien entendu, sera sauvé. Ce théâtre ne transgresse pas. En fait, on se demande bien ce que ce théâtre fait à Marx. Pas du bien. On y fait parler des figures, comme chez Honoré, on y gueule comme chez Macaigne, comme si la convocation suffisait, comme si l'invective permettait de ne plus avoir à diriger les acteurs. Où est la complexité des émotions? Où est l'incarnation? La saison passée, nous vous avions parlé de La Terre d'Anne Barbeau qui repasse en avril au Théâtre de Châtillon. À peu près le même sujet, cette idée que les luttes du passé rejoignent celles de notre présent, mais là, un texte, celui de Zola, ciselé, impeccable, choisi, et surtout l'épaisseur de personnages dont on suit l'évolution sur des années. Alors il faut être tout à fait honnête, il y a des moments jouissifs dans ce spectacle, l'apparition du masque de Marx, petite poésie plastique, Baudelaire et sa tête de navet, surtout les interventions de Léo Antonin Lutinier qui à lui seul mériterait un spectacle tant il est dans la maîtrise de son art.
Merci beaucoup Thomas. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais vous pourrez le voir à Malakoff, comme nous a dit tout à l'heure Julien, voilà, si vous avez envie.
Du 15 au 18 octobre, on passe de Bobigny, ville communiste, à Malakoff, ville communiste, a priori pour écorcher Marx.
Ah mince,
bof, bof.
C'est pas bien ça.
Alors, et on passe maintenant à Arcadie, que j'ai vu au Théâtre des Belles-Villes. C'est une mise en scène de Sylvain Maurice sur un texte d'Emmanuel Baymak-Tam. Et... donc, je vais vous raconter. Et vous avez un peu de temps pour le voir parce que ça dure jusqu'au 30 novembre. Donc, on commence avec une promesse intrigante. Arcadie nous plonge dans une communauté utopique, au mieux une secte, New Age. Il faut savoir que moi, j'adore les histoires des sectes. Cette secte est dirigée par Arcadie, un gourou des temps modernes. Et la protagoniste est Farah, une adolescente en pleine transformation qui tente de comprendre qui elle est. Alors, donc malgré, c'est une promesse, ça s'annonce passionnant, mais malgré toute la bonne volonté du texte et une mise en scène hyper soignée et bien pensée, cette pièce m'a laissé, comment dire, complètement froide. Pourquoi ? Le texte d'Emmanuel Baymak-Tam est brillant. On commence, on entend des vers, il est ciselé, la langue est riche, chaque réplique est bien pensée, mais voilà, les questionnements sont profonds sur les questions des genres, d'amour universel, de société alternative. Mais les problèmes, c'est que tout est extrêmement artificiel, trop lisse, et ça nous fait penser un peu à du Proust, mais sans cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais j'ai ressenti vraiment une sensation très bizarre au théâtre. J'avais vraiment très envie de sortir. Alors qu'on ne comprend pas parce que on voit quand même, quand on voit les images de la pièce, j'étais très contente d'aller voir cette pièce. On voit juste les photographies, mais c'est incroyable. Et tout, et la langue aussi, mais seulement, il n'y a pas d'âme dans cette pièce. Donc on assiste à une succession des scènes impeccables, chaque réplique est pesée au gramme près, chaque geste chorégraphique il est étudié avec minutie, c'est beau, c'est fluide, mais c'est incroyablement froid. Je n'ai pas ressenti la moindre émotion, même pas une petite étincelle d'émotion. Les thèmes sont forts, les sujets de la métamorphose du corps et de l'identité, et ça nous fait penser à la pièce qu'on avait vue cet été à Avignon, tu te rappelles, Cicatriciel, de Sarita Vincent Guillot et Yann D'Acosta. Mais là, il n'y a pas du tout des cœurs. Voilà, et c'est justement... Julien, tu m'as dit que je dois raccourcir. Bon, allez vous faire votre avis allez vous faire votre... Pourquoi vous rigolez?
Bon, allez-y. Raccourci.
Oui, donc allez vous faire votre avis au Théâtre de Belleville. Vous avez jusqu'au 30 novembre. Voilà. Je passe donc la parole à Alice pour la dernière chronique de la soirée. Mais on a le temps, Julien. Donc, tous mes couples, là, mais on a le temps. Bon, pour L'Île au Père, Alice, on t'écoute.
Alors, L'Île au Père, que pouvons-nous dire de ce spectacle? Je suis désolée, mais là, c'est rare quand je suis si peu inspirée.
Non, mais si vous pas... m'avez coupé pour ne rien dire sur le dernier spectacle, ça ne va pas le faire.
Voilà, la metteuse en scène, qui s'appelle Lisa McOver, en observant son entourage, s'est posé la question suivante. Pourquoi les papas sont-ils si souvent absents ou morts? Ses recherches dans les différents champs artistiques, livres, cinéma, chansons, etc., ont abouti au même constat. Les pères sont absents, partis en guerre, en mer, au travail. Enfin, voilà, on les voit plus. Alors, elle a imaginé une pièce de théâtre pour pallier à cette absence insupportable de son point de vue. Y parvient-elle? Elle confie à trois trentenaires, un circassien, un comédien, un danseur, le rôle pour évoquer ce lourd sujet. Y parvient-elle? Alors, ils évoquent chacun à leur manière leur relation personnelle à leur père. Ils incarnent tous trois leurs souvenirs d'enfance dans des costumes de super-héros, ce qui met un doute sur leur maturité émotionnelle. Alors, c'est vrai que les recherches en neurosciences m'avaient pourtant appris que le cerveau humain atteint sa maturité émotionnelle vers 25-28 ans. Mais alors les gars, c'est pas gagné à 30 ans là. Ces trois artistes évoquent aussi leur paternité réelle et fictive et leur vision du sujet laisse également présager un rôle peu abouti laissant à défaut le premier rôle au maire. On garde au final une image assez déplorable des pères. Au final, je ne sais pas trop si ce projet théâtral parvient à son intention initiale de pallier à cette absence sidérale. Cette absence n'est-elle pas souhaitable au final, vu la maturité basique de ces hominidés défectueux? Alors les gars, mais que se passe-t-il? On est au 21e siècle tout de même. Quelles évolutions sont-elles souhaitables à l'aune des bébés éprouvettes? C'est toujours le même constat de rôle stéréotypé, homme-femme dans la société, y compris dans le domaine artistique, ce qui fait l'effet d'une double peine. Désolé, hein. Mais à l'issue du spectacle, les comédiens nous invitent après donc, à explorer l'île des pères disparus. On peut écouter des enregistrements réels de témoignages captés au cours de cette expérience théâtrale. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans chaque espace. Je me suis demandé si la forme théâtrale évoluera, tenant compte aussi des témoignages à l'issue de ce spectacle. Je ne me suis pas sentie transformée, et vous? T'es-tu sentie transformée, Thomas?
Ah mon Dieu. Au cas où on ne suivrait pas, ça commence bien cette suspicion que nous ne serions pas attentifs, hein, au cas où on ne suivrait pas, donc, on nous le dit, on nous le redit et on nous le re-redit, ce spectacle part de la question « Pourquoi les pères sont-ils absents ou morts ?» Bon, ok, pourquoi pas, hein, mais... Même si tout cela est bien réducteur, hein, un peu larmoyant aussi, on veut bien partir de cette question, mais pour aller où? C'est bien le souci de ce spectacle. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où l'on va. Est-ce que c'est un spectacle sur la masculinité? Il y a bien trois interprètes masculins au plateau, hein, donc on peut bien y penser à ça. Donc c'est plutôt la question d'être un fils qui semble être ici posée, hein, pas celle d'être un enfant ou même une fille. Ce serait de bonne guerre. C'est la question que se pose Hamlet, après tout, être ou ne pas être un fils. Mais on sent bien qu'au-delà, c'est la question de devenir père soi-même qui se pose. Comment devenir père si notre père a toujours été absent ou mort? Comment survivre aussi si l'on devient père à son tour? Survivre ou ne pas s'enfuir? D'autant que les interprètes sont en âge de procréer. Ils ne sont plus des enfants. Voilà que tout se complexifie, hein, mais pas tant que ça. On reste ici dans un monde très hétéronormé, finalement, très patriarcal même, hein. Et aujourd'hui, voilà qui semble quelque peu problématique. Car est-ce que devenir un homme, c'est devenir père? Rien n'est moins sûr. Alors, il y a sans doute de la naïveté. C'est ce qui semble apparaître avec ces convocations régressives de Dragon Ball Z, de Spider-Man, de Thorgal, du Roi Lion. Ça ratisse large, hein, ça parle à tout le monde, hein, c'est attachant la naïveté. Mais ça ne décolle pas vraiment. Pour légitimer tout cela, rien de mieux que de faire du théâtre documentaire. Alors, on passe du temps à interviewer des gens, des anonymes. Ils nous racontent leur histoire. Ce dont ils se souviennent avec leur père. Une grande libération de la parole pour ceux qui n'ont pas la parole. Ça semble généreux, ça, hein, ça permet de dire que ce que l'on dit est vrai, hein, sans qu'on puisse rien vous opposer. Une émotion vraie dans un monde qui porte au pinacle l'authenticité. Un zeste de psychanalyse avec son lot de révélations traumatiques gênantes et le tour est joué. Mais jamais on abordera cette île que le titre nous promettait. Et c'est bien dommage, c'est là qu'on aurait voulu aller. accoster ce fantasme d'une île où les pères absents et morts se retrouveraient en toute bonhomie. On ne fait que tourner autour sans savoir véritablement ce qui s'y passe. Il y a de belles images, une gestion de la fumée impeccable notamment, des émotions aussi, même si elles sont exprimées avec trop de pudeur. Il y a surtout de la générosité d'un dispositif qui, à la fin du spectacle, ne sait pas choisir et vire à l'exposition de toutes les matières rencontrées lors de l'élaboration du spectacle. Ça sonne un peu comme un manque de maturité, mais justement, laissons à Lisa Machover le temps de ne plus être une enfant.
Merci beaucoup Thomas et Alice. Donc, pour nous, c'est arrivé le moment de vous dire au revoir. Ce soir, on a parlé des Tatiana, de Julien Andujar. Oui, Julien, tu veux ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste indiquer que si quelqu'un avait quand même envie d'aller le voir, il pouvait aller en fin janvier, début février à Lyon. Mais après ça.
Tu pars de l'île au père. Très bien. Oui. Ok. Super. Merci beaucoup, Julien.
Pour et un sinon, complément d'enquête.
Oui. Ce soir, on vous a parlé des Lapis Lazuli, vu au théâtre de la Cité Internationale, des Euripides de la Scaradis. On vous a aussi parlé donc, des Banquets Capital, des Sylvain Crotswohl, d'Arcadie, des Sylvain Maurice. Et on a terminé avec l'île au père d'Elisa Machover. Merci beaucoup à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Nous, on vous dit au revoir. On se retrouve le 4 novembre à 20h sur Radio Campus Paris. Cette émission a été préparée par Julien, présentée par Camilla, avec la complicité de Thomas, Adam Garnin, Alice et à la réalisation, il y avait Guigui. À bientôt. Bisous.
Ciao, ciao.
Ciao.